s'effondre. La guitare tombe derrière moi. Voilà, mes frères et sœurs, bonjour à tous. Vous allez bien par ce beau jour d'été. On est le 17 aujourd'hui, c'est ça, hein? Hier, c'était l'anniversaire de mon petit frère. Et voilà, c'est bien, on vieillit, hein? Un peu chaque jour. Mais bon, c'est bien, c'est bon. Ce matin, je voudrais vous prêcher la parole de Dieu en prenant pour appui un texte de l'évangile de Thomas, un évangile apocryphe. Alors, comme je vous l'ai déjà enseigné, le mot apocryphe signifie caché. Ça ne signifie pas douteux ou faux, ça signifie caché. Alors, il y a des livres apocryphes qui ne sont pas inspirés et qui ont été donc cachés. Et puis, il y a des livres apocryphes qui ont été cachés pour des raisons politiques ou religieuses. Et alors, le petit peuple de Dieu ne comprend pas toutes ces histoires parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe derrière les coulisses, n'est-ce pas? Mais il faut quand même, nous on cherche à comprendre. Hein, on cherche à comprendre. L'évangile de Thomas était connu des premiers disciples. L'apôtre Paul cite un texte de l'évangile de Thomas dans 1 Corinthiens 2, 9. Je répète pour ceux qui ne savent pas. En fait, l'évangile de Thomas, c'est le premier évangile qui a été écrit. Les quatre évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'ont été écrits qu'environ 80 ans après Jésus-Christ. Et l'évangile de Thomas a été écrit avant l'an 55. Comment on le sait? Ben simplement parce que Paul, il a cité cet évangile dans une lettre, sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et cette lettre, on sait, on peut la dater, elle a été écrite en 55. Non, c'est la première lettre aux Corinthiens. Il l'a écrite vers 55 après Jésus-Christ. Et comme il cite l'évangile de Thomas, on comprend donc que cet évangile avait été déjà écrit. Paul dit « ainsi qu'il est écrit » et il cite Thomas. Bon, voilà. Alors, les chrétiens ne savent pas, la plupart du temps, ils ignorent. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on ne leur dit pas. Et aussi parce qu'ils ne cherchent pas beaucoup. Mais ils n'ont pas aussi beaucoup de temps pour chercher. Hein, métro, boulot, dodo, l'affolement, toutes les choses de la vie. Et déjà, lire sa Bible, c'est un peu... Il y en a qui arrivent juste à lire leur Bible. Alors, vous pensez, allez commencer à fouiller, chercher. Mais nous voulons, et je me consacre à apprendre les choses et à vous les dire de façon à ce que vous sachiez les choses. Que Dieu soit béni. Alors, comme je vous disais, pour des raisons politico-religieuses, les pères de l'Église, enfin, ceux qui ont choisi les quatre évangiles que nous avons dans notre Bible, parmi d'autres évangiles, il y a beaucoup d'autres évangiles, on les a tous maintenant, presque, hein, je pense qu'il y a peut-être encore quelques-uns qui sont sous terre, je ne sais pas. En tout cas, on en a déjà beaucoup, on peut se procurer, vous allez à la procure, par exemple, ou vous allez chez Payot, en Suisse, à la FNAC, n'importe où, dans une bonne librairie, et vous pouvez commander... Les Apocryphes chrétiens, c'est un beau livre chez Gallimard, dans la collection Pléiade. Vous trouvez ça? Il ne faut pas mourir idiot. Mais enfin, déjà, le principal, c'est de lire la Bible, c'est vrai. Donc, parmi ces évangiles, il y a plein d'évangiles, il y en a qui sont complètement tordus, il y a des évangiles complètement... On voit que c'est faux, que c'était écrit par des gens pas inspirés, mais... Eh bien, ils ont rejeté, ces gens qui ont choisi les quatre évangiles qui se trouvent dans la Bible, ils ont rejeté... L'évangile de Thomas, pour des raisons politico-religieuses, je vous explique. À cette époque, quand le christianisme était naissant, tout de suite, il y a eu une division au milieu d'eux, et c'est une secte que l'apôtre Paul combat, des gens qui niaient la divinité de Jésus, qui niaient le fait de la mort et de la résurrection, et voilà, ils existent toujours, c'est ce qu'on appelle les gnostiques. Vous pouvez les trouver sur Internet, vous pouvez voir leur doctrine, vous pouvez lire leurs livres. Les gnostiques, c'est des gens qui ne sont pas vraiment, ils sont pas nés de nouveau, ils ont une autre idée au sujet de Jésus, c'est très bizarre. Alors, il ne faut pas mourir idiot, c'est bon aussi de se renseigner sur ce qui se passe. Hein. Bon, moi je ne lis pas que ça, je lis aussi Bernard Werber, je lis aussi aussi bien Victor Hugo que, ben voilà, quoi, je lis Tintin aussi. Et ben, je pense que Dieu ne va pas me foudroyer parce que je lis Tintin. On a le droit de lire d'autres choses que simplement la Bible, bien sûr. Alors, donc ces gnostiques, ils se servaient beaucoup de l'évangile de Thomas, because c'était le seul qui existait. Vous comprenez? C'était le seul qui existait au départ. Donc, les pères de l'Église, ceux qui ont choisi les quatre évangiles que nous avons, ils ont décidé que voilà, il valait mieux éliminer cet évangile, ne pas le mettre dans le droit canon parce que ça risquait de faire une confusion entre eux et les gnostiques. C'est tout. C'est tout. C'est tout. L'évangile de Thomas a donc disparu de la surface de la terre. Et puis, on l'a retrouvé dans les années 40. On en a retrouvé un exemplaire dans une petite, dans un coin d'Égypte qui s'appelle Nag Hammadi. C'est un endroit tout perdu. Ils ont trouvé ça. Et aussitôt qu'il est ressorti de la terre, eh bien, les chrétiens se sont empressés de le recacher sous leur poussière. Ils disent, oh, c'est pas bien, il ne faut pas lire ça, attention, c'est terrible, ils disent des choses épouvantables et tout. Moi, je me rappelle, quand je n'étais pas chrétien, ma grand-mère disait, oh, il ne faut surtout pas lire la Bible, dedans, il y a des cochonneries. Parce qu'elle était tombée sur le Cantique des Cantiques, elle avait trouvé ça épouvantablement érotique. Donc, il ne faut pas que les gens lisent, il ne faut pas lire la Bible, c'est des cochonneries dedans, il y a des choses, il ne faut pas. Vous voyez, les gens, puis alors après, ils répètent, et puis ça devient une espèce de croyance populaire. Donc là, en ce moment, dans les milieux chrétiens, on dit, attention, il ne faut pas lire les livres apocryphes, il ne faut pas lire l'évangile de Thomas, il y a des choses hérétiques dedans, voilà. C'est dommage. Enfin bon, nous sommes libres de lire ce que nous voulons, comme je vous disais, moi, par exemple, je lis et je prêche parfois sur des textes tenus pour apocryphes par les protestants. Vous savez que la Bible catholique, la Bible de Jérusalem, dans cette Bible-là, il y a des livres, des choses qu'on ne trouve pas dans nos Bibles protestantes, les Bibles que vous avez tous ici. Mais il y a des choses inspirées dedans aussi. Et c'est à vous de voir, c'est à vous de comprendre. Donc eux, les catholiques, ils ont dit, oui, ça c'est bien, on le met dans nos Bibles. Puis les protestants ont dit, non, on ne veut pas, ils l'ont rejeté. Qui a rejeté? Qui a rajouté? On me dira, oh, voilà, bon, enfin, vous pensez comme vous voulez. Donc moi, je ne rejette pas, je cherche à comprendre. Je ne veux pas qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas parce que des grands théologiens me disent c'est pas comme ça que je dis ah, bah, c'est pas comme ça. Puis je fais ce qu'ils me disent. Non, je cherche à comprendre. Dieu m'a donné une intelligence. Dieu vous a aussi donné une intelligence. C'est à vous de chercher. Si je dis des choses fausses, quand vous arriverez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire bah, c'est Michel qui m'a dit. Non, vous devez chercher vous-même aussi. D'accord? Alors moi, je vous partage ce que j'ai reçu et je crois que je l'ai reçu par l'Esprit de Dieu. Et voilà. Maintenant, il y a aussi la Bible éthiopienne en Éthiopie. Leur Bible, ben, Enoch. Et voilà. Alors, est-ce que c'est eux qui ont rajouté Enoch ou est-ce que c'est nous qui avons retranché Enoch? Voilà, la discussion est ouverte. Moi, je refuse d'avoir des œillères et d'être tristouné dans mon coin à m'embêter avec ces questions-là. Donc, je lis aussi Enoch. Alors, ce matin, on va lire le logion 62 de l'évangile de Thomas. Voilà un mot bizarre, logion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire parole nue. Pourquoi parole nue? Eh bien, parce que l'évangile de Thomas, dans l'évangile de Thomas, vous avez 114 versets, mais vous n'avez rien au sujet de la naissance de Jésus, de son papa, de sa maman, des miracles qu'il a fait, des conversations qu'il a eues avec Pilate, ou comme ça, ou de sa mort, de sa résurrection. Il n'y a rien de tout ça, il y a juste des paroles qu'il a dites. Thomas a pensé que c'était bien d'écrire simplement, non pas l'histoire mais de Jésus, mais des choses qu'il a dites, faire un recueil des paroles qu'il a dites. Je trouve que c'est très bien, son idée. C'était certainement inspiré. Donc, depuis plusieurs mois, je travaille au commentaire de ces logias, parce qu'on dit des logias, un logion, si je ne me trompe pas. Et déjà, sur Internet, vous pouvez lire plus de 50 logions, avec les commentaires que j'y apporte, avec l'aide de Dieu. Et ce matin, on va lire le logion 62. Alors, je vous le lis. C'est donc Jésus qui parle, et il dit « Je révèle mes mystères à ceux qui se font capables, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. » Je répète, je révèle mes mystères à ceux qui se font capables, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Alors ça me fait penser à ce que Jésus dit dans Matthieu 13, 10, 11. On va lire. Matthieu 13, 10, 11, pardon. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Donc si j'en crois la Bible, l'évangile de Matthieu, il y a des choses, il y a des gens, il y a des gens à qui Jésus ne révèle pas les mystères du royaume de Dieu. Dans l'évangile de Thomas, il dit « Je révèle mes mystères à ceux qui se font capables. » Alors, il faut chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a ses raisons pour faire comme ça. Et ce n'est pas à nous de juger Jésus. On ne va pas juger Jésus. Mais il ne nous interdit pas de chercher à comprendre. D'accord? Donc, Jésus dit que ce sont des gens qui, en voyant, ne voient point, et en entendant, ils n'entendent rien, ni ne comprennent. Vous trouvez ça dans le même passage, Matthieu 13, au verset 13. Ce sont des gens qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne voient rien. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils voient rien? Pourquoi est-ce qu'ils entendent rien? Pourquoi est-ce qu'ils comprennent rien? Ben, il le dit au verset 15, toujours de Matthieu, parce qu'ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Jésus dit de tellement belles choses, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas entendre? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre? Eh bien, Jésus le dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Qui a peur? On trouve ça dans Matthieu 13, 15, 16. Qui a peur? Les gens ou Jésus? Est-ce que Jésus a peur qu'ils comprennent, qu'ils se convertissent et qu'ils ne soient obligés de les guérir? Ou est-ce que c'est les gens qui ont peur de comprendre, parce que s'ils comprennent, alors ils vont se convertir et ils ne veulent pas être guéris. Répondez vous-même. Alors Jésus leur parle en parabole. Et là, il faut y voir la bonté de Dieu. Beaucoup disent, c'est pas juste, pourquoi? Non, voyez-y la bonté de Dieu. Moi, je choisis toujours le côté de Dieu. Dieu est bon. Jésus est gentil. Alors pourquoi est-ce qu'il leur parle en parabole? Parce qu'il est gentil. Écoutez bien, il leur parle en parabole de façon mystérieuse, ainsi ces gens ne se rendent pas coupables d'endurcissement volontaire, parce qu'on ne peut pas comprendre les paraboles et les mystères. Vous comprenez? Il est bon, Dieu est bon. Ces gens ne seront jamais tenus coupables de ne pas avoir compris, c'est incompréhensible. Vous voyez la bonté de Dieu? Ils seront juste tenus pour responsables de n'avoir pas voulu entendre. D'avoir endurci leur cœur. Le problème pour eux, pour ces gens-là, c'est que dès maintenant, là, ici-bas, sur cette terre, Jésus ne peut pas les guérir. C'est ça le problème pour eux. C'est eux qui ont un problème. Alors, ils souffrent, ces gens. Ils souffrent et ils font souffrir les autres, ils font souffrir leur famille, ils font souffrir tout le monde autour d'eux. Ils ont endurci leur cœur. Certainement, ils ont de bonnes raisons pour avoir endurci leur cœur. Peut-être qu'ils ont fait des mauvaises expériences avec un pasteur ou avec une église, ou alors ils ont fait des mauvaises expériences spirituelles, ils ont été dans des trucs pas possibles, et alors ils ont dit, oui, c'est comme ça, ils ont fermé la porte, ils se sont fermés. Ils ont des raisons qui leur semblent valables, certainement. Je ne les accuse pas de malhonnêteté, je les accuse de manque de profondeur. Ils ne cherchent pas à comprendre. Personne ne peut trouver des excuses devant Dieu. C'est à nous de chercher à comprendre. Pas de juger, mais de chercher à comprendre. Dans Matthieu 13, 16, Jésus dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Mais pourquoi, moi, Michel Janton, j'ai des yeux qui voient et des oreilles qui entendent, et un cœur qui comprend? Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que j'ai ouvert mon être, ça me rend vulnérable, mais ça m'apporte beaucoup aussi. Quand vous vous ouvrez, vous êtes vulnérable, mais ça vous apprend aussi. Je ne suis pas crispé. Dans Thomas 62, Jésus dit la même chose. Je révèle mes mystères à ceux qui se font capables. C'est-à-dire qui ouvrent volontairement leur être, pour que leur être soit puisse contenir la capacité du don de Dieu. Vous êtes-vous rendu capable? C'est ça la question. Vous vous souvenez de la parabole des terrains, hein? Il y a un semeur qui est sorti, puis il a semé de la bonne semence, très bonne semence, et puis il y a une partie qui est tombée sur le chemin, une partie qui est tombée dans les ronces, une partie qui est tombée dans un sol pierreux, puis il y a une partie qui est tombée sur de la bonne terre. Hein, et il dit ensuite le semeur c'est Dieu et puis ou ses serviteurs et puis la bonne semence c'est la parole de Dieu puis le terrain c'est le cœur de l'homme. Quelle sorte de terrain vous êtes? Peut-être que votre terre elle est pleine de grosses pierres en ce moment. Alors, se rendre capable, ben, c'est enlever ces grosses pierres. Faites-le. Rendez votre terre capable de recevoir les mystères de Jésus-Christ et de son royaume. Ôtez les pierres de votre vie. Vous avez reçu la parole de Dieu avec joie un jour, mais vos souffrances, les injustices réelles ou imaginaires font que vous êtes devenu sec, hein, et puis vous êtes devenu stérile spirituellement, et puis vous êtes rendu imperméable aux mystères de Dieu. Rendez-vous capable. Sers-toi de ta main droite pour ensemencer ta terre et ton cœur, et sers-toi de ta main gauche pour débroussailler ton cœur de tes peurs, de tes craintes, de tes jugements, de tes préjugés. Voilà pourquoi Jésus parle de que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Je vais vous expliquer tout ça. Que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait. Pourquoi Jésus dit ça là? Ta main droite, elle sème la vérité, la bonté, la loyauté, la parole de Dieu, les choses louables, honorables, dignes de louange, tout ça. Alors que ta main gauche, elle peine à ôter le mal, à ôter les ronces, à ôter les soucis, à ôter tout ce qui encombre ta vie. Alors, ne laisse pas ta main droite avoir une communion avec ta main gauche. Ne laisse pas le mal, parce que le mal va prendre le dessus sur le bien. Ne te plains pas, place-toi devant Dieu, qui est ta lumière, qui est ta force, qui est ton énergie. Ne mélange pas les deux. La droite s'occupe du céleste, la gauche s'occupe du terrestre. Mais tout ça, c'est dans l'esprit que je vous parle. C'est pas que votre main s'occupe des choses terrestres, gauche, et puis la droite s'occupe. C'est une vue de l'esprit, d'accord ? Pas dire que maintenant, il ne faut pas se mettre la main gauche et les gauchers sont maudits ou je sais quelle bêtise. Ça. La droite s'occupe du céleste, la gauche s'occupe du terrestre. Que l'action qui se passe sur terre, c'est-à-dire les pierres à ôter, c'est-à-dire tes soucis, tes frustrations, l'injustice, la bêtise, les poudriers Chanel, toutes ces choses qui n'ont pas de vraie valeur et puis qui encombrent ta vie, eh bien, que l'action qui se passe sur terre n'influence pas ton action céleste, c'est-à-dire ton amour pour Dieu, pour la parole de Dieu, ton amour pour les frères et sœurs, ton amour pour les serviteurs de Dieu, ton amour pour l'œuvre de Dieu dans l'église locale où Dieu t'a placé, que ce que ta main gauche fait pour débarrasser le mal n'entrave pas ce que ta main droite fait pour l'œuvre de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour des uns et des autres, pour l'amour des inconvertis que tu veux conduire à Jésus. Vous comprenez ça? Il te donnera ce que tu peux contenir si Dieu te voit travailler à purifier ta vie et ta conscience. Il augmentera ta capacité. Maintenant, il y a des versions, vous savez, on a la version seconde, hein, de la Bible, mais on a aussi la version de Jérusalem, la crampon, et moi j'en ai 38 versions à la maison, en français. Je crois que les Français, c'est nous qui avons le plus de versions, les Anglais en ont moins. C'est nous qui avons le plus de versions, on bat tous les records. Eh bien, il y a aussi des versions différentes de l'évangile de Thomas. Et dans un autre évangile de Thomas, dans une autre version de l'évangile de Thomas, c'est pas question de capacité, mais de dignité. Je révèle le mystère à ceux qui se sont fait dignes. Jésus dit ces mystères à ceux qui se font dignes de ces mystères. Être digne, être capable, c'est être au niveau qui permet la compréhension de ce que Jésus dit. Vous voyez, la Bible est le livre le plus traduit au monde, le plus vendu au monde, mais si peu connaissent les mystères du royaume. Pourquoi ? Parce que d'abord, premièrement, ils ne lisent pas, ils l'achètent mais ils ne lisent pas. Ou alors s'ils le lisent, il y a une question de dignité. Il y a une question de capacité des lecteurs qui possèdent la Bible. Justement, il faut que leur main gauche ignore ce que fait leur main droite. Ils mélangent tout. Ouais, le pasteur, donc ils sont rognes contre Dieu. Ils ne disent pas qu'ils sont rognes contre Dieu, mais ils coupent avec Dieu parce qu'il y a des problèmes dans l'Église ou parce qu'ils ont une difficulté ou ceci ou cela. Ils mélangent tout. Quand Jésus se révèle à quelqu'un, la première chose, il révèle le péché de la personne, il lui montre comment elle est. La personne donc devient convaincue de péché, de justice, de jugement. Je pense que ça vous rappelle des textes de la Bible, ce que je vous dis là. Ensuite, Jésus leur révèle l'amour du Père, le pardon, le fait d'être lavé, purifié de tout ça, de ses péchés. Et alors la personne peut revêtir la justice de Jésus-Christ. Tout ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans une personne qui s'approche. Mais trop de gens s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Ils ont compris qu'ils sont pécheurs. Ils ont compris que Dieu les pardonne. Ils ont compris que Jésus les revêt de sa justice. Donc ils disent, voilà, maintenant je suis juste devant Dieu. C'est bien, merci Seigneur. Amen. Mais ensuite, leur relation avec Dieu se borne à une relation de mendicité. Ils se comportent avec Dieu seulement pour passer des commandes. Pour demander. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Je connais un homme, pour ne pas le nommer, il s'appelle Marc Croza. C'est un homme qui est très aisé, très riche, puisqu'il a beaucoup travaillé dans sa vie. Et il a des relations terribles. Les gens, ils lui courent derrière pour le pognon et il le ressent. Et ça lui fait mal. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand vous venez vers Dieu que pour lui demander tout le temps, mais ça fait mal au cœur de Dieu, ça. Bien sûr que vous avez des besoins. Mais il faudrait quand même penser à autre chose que toujours venir vers Dieu pour demander. Ça fait mal. Dieu, il voudrait simplement être connu tel qu'il est, aimé pour ce qu'il est, recherché. Il aimerait être trouvé. C'est pourquoi il dit celui qui cherche, il trouve. Il voudrait qu'on lui montre notre amour, notre attachement désintéressé. Il voudrait ça. Alors, Dieu se révèle, mais par dévoilements successifs, si j'ose dire. Il ne se révèle que si on cherche. Il a décidé ça. Le mystère du royaume, c'est que Dieu ne veut pas un royaume avec des sujets, mais avec des fils et des filles. Il en a marre de cette impression que nous avons, qu'il est dans une espèce de coffre-fort, comme Picsou, et puis qu'il est assis là, et puis voilà, la foule de dingos qui viennent tous les jours pour venir chercher une petite pièce en or, pour venir chercher ceci ou cela, pour recevoir, et puis qui se disent quand même, je ne peux pas faire que demander, donc je vais déjà dire merci, merci, oh sois loué, sois béni, sois adoré, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment tout ce que tu as fait pour moi, oh merci, 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 Seigneur j'ai besoin de ça, je sais que tu es tout puissant pour le faire, t'es riche, t'es tout puissant, mais il en a marre de ça, vous comprenez? On en aurait marre nous aussi, hein. Un fils ou une fille ne se comporte pas comme un sujet, il est le roi des rois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le roi de ceux qui règnent et non pas des mendiants. De ses fils et de ses filles, des gens qui ont ça dans leur sang, ce sont des régnants. C'est des fils et des filles qui se comportent dignement, les autres non, ne se comportent pas dignement. Dieu cherche à nous faire comprendre que nous avons à nous identifier à lui. Cette identification avec Dieu nous fait passer par le chemin du renoncement à soi. Parce que il faut choisir, soit on reste avec notre petite identité, ou alors on adopte son identité à lui, on s'identifie à lui, on commence à croire que tout nous est possible, comme à lui tout était possible. Puis on arrête de passer commande, on commande nous-mêmes. Mais le prix leur semble un petit peu élevé. Ils disent, nous ne sommes pas capables de faire ça. Moi, je préfère être un mendiant. Moi, je ne peux pas. Alors. Et puis, comme ça ne marche pas, ils endurcissent leur cœur. Ils font semblant. Dans un premier temps, ils font semblant de ne pas comprendre. Puis après, vraiment, ils ne comprennent plus. En fait, ils aiment leur vie plus que Dieu. Ils aiment leur plaisir plus que Dieu. Ils aiment ce que Dieu peut donner plus que Dieu. Ils aiment plus les dons que le donateur. Alors, Jésus rend les choses mystérieuses. Voilà. Afin que les incapables, afin que les indignes ne cherchent pas un pouvoir d'affirmation personnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que, mes frères et sœurs, un pouvoir d'affirmation personnelle mêlé avec la connaissance des mystères de Dieu, ça peut rendre les gens très dangereux. Regardez les actes des religieux au cours des siècles, même maintenant, aujourd'hui. Les gens qui ont un pouvoir personnel, d'affirmation personnelle, avec une certaine connaissance des choses du royaume de Dieu, ils deviennent vite des despotes. Or Jésus dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Et il dit, tout devient saleté avec ceux qui sont indignes et incapables, fermés, volontairement sourds et aveugles. Alors pensez-y, mes frères et sœurs. Ta main gauche déblaie ta terre pierreuse, pleine de ronces, pleine de soucis, pleine de préjugés, pleine de sentiments d'injustice. C'est bien qu'elle continue à le faire. C'est Jésus qui t'inspire à faire ça. Dans ta vie, pas dans la vie des autres, dans ta vie. Maintenant, ta main droite sème la bonne parole sur ta terre, sur ton cœur qui est déblayé, qui se déblaye de plus en plus. C'est bien, c'est Jésus qui t'inspire à faire ça. Mais, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Ta main gauche ne peut savoir ce que fait ta main droite que par ton mental. Regardez, la main gauche est à gauche, la main droite est à droite, et entre les deux, il y a quoi ? Ma tronche. Ma réflexion, mon intelligence tordue, hein, mon mental qui est entre ta gauche et ta droite. Or, ton mental n'est pas encore apte, n'est pas encore capable, n'est pas encore digne de juger et d'analyser ces choses. Laisse Jésus t'inspirer. C'est pourquoi la contemplation. Ne fais pas les choses avec ton mental, c'est-à-dire avec tes calculs, c'est-à-dire avec tes idées à toi, qui ont été forgés par ton éducation, par tes expériences positives et négatives. C'est un gros mélange. Entre en osmose avec le Père. Identifie-toi de plus en plus à ton Père divin. Fais les choses en son nom, à sa manière. Deviens de plus en plus comme lui. Progresse avec son aide. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel et il agira. Deviens un avec le Père. Réduis ton mental au silence. Chut, tais-toi, la boucle, ferme. Si tu fais ça, ta dualité sera supprimée. Pas d'un coup, mais tu seras en chemin. Ta gauche travaillera pour ta droite et vice-versa, en unité, en accord, mais sans analyse humaine. Juste par amour pour Dieu, juste par amour pour toi-même, juste par amour pour les autres. Tout ce que tu feras sera béni. Et tu seras en bénédiction pour les autres. L'autre jour, je suis allé dans une cave à Sion. Et j'étais avec Jean Daniel, le compagnon de Sylvie. Et puis, en entrant dans la cave, il y avait une petite affichette, c'était marqué. « As-tu des problèmes ou fais-tu partie des problèmes ?» Je trouvais que c'était intéressant à méditer. Tu seras en bénédiction pour les autres. Voilà comment Jésus veut que nous accueillions ces mystères. Voilà comment il veut qu'on accueille ces mystères. Pas avec notre intellect, pas avec notre mentalité qui a été souillée, blessée, meurtrie. Dieu veut une relation d'esprit à esprit. Pas d'âme à esprit. Ça ne peut pas marcher. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Votre âme, votre intellect, ça ne peut pas... Ça peut pas coller. L'âme colle pas avec Dieu. Même sauvée, elle colle pas avec Dieu. Ça vibre trop bas. Alors, mon frère, ma sœur, sois cette personne qui se rend capable, non pas intellectuellement, mais avec le cœur. Que Dieu nous vienne à tous en aide. Amen et amen. Dieu vous bénisse. On se lève et on remercie le Seigneur. On loue Dieu. On le bénit. On ne demande rien du tout. On le bénit. On l'adore. On le glorifie. Amen. Alléluia. Pendant que les musiciens s'approchent, on continue. On loue le Seigneur et on le remercie dans la louange. Merci Seigneur. Sois béni Jésus pour ces enseignements. Seigneur, je sais que cela peut paraître étrange à certains qui ne comprennent pas bien les choses que nous enseignons depuis tant d'années, mais éclaire leur cœur pour que cela devienne bon et qu'ils puissent entrer dans la louange, lâcher prise et dire « Merci Jésus, merci parce que tu es bon, tu nous donnes toujours ce qu'il y a de mieux, merci Seigneur. » Louez le Seigneur, élevez vos voix, j'aimerais entendre vos voix. Dieu veut entendre vos voix, les anges ne savent pas ce que vous pensez et quand ils vous entendent louer, Dieu, alors ils peuvent se joindre à vous. Sinon, ils vous regardent et puis ils se disent, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ils ne savent pas ce que vous pensez. Alors, louez Dieu avec vos voix, afin que vous puissiez vous joindre au cœur des anges qui louent le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Élevez vos voix, ne murmurez pas. quand vous dites « passe-moi le sel », vous dites « passe-moi le sel » pour être compris. Eh bien, louez Dieu de façon à ce que vous soyez entendus, non pas simplement murmurant, mais avec tout votre cœur. Alléluia! Merci Jésus, gloire à ton nom. Alléluia! Béni soit ton saint nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, sois glorifié. Alléluia, alléluia, béni soit ton nom. Alléluia, gloro lo baralalayando, endele isori geverenea, in glori bidisa baranaya, andehoska, minanayo sungorori, evehera manaraya, namanaston dolore. Oh oui, j'ai reçu la paix. Oh oui, j'ai reçu la joie, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai tout reçu en Jésus. Oh oui, j'ai reçu la paix. Oh, la joie, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai tout reçu en Jésus. Continuez les musiciens, alléluia, pendant que nous élevons nos voix. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Remets de l'harmonie dans nos cœurs. Oh, remets l'équilibre là où l'équilibre a été un peu bougé. Alléluia. Sois béni, Jésus, pour ta parole. Alléluia. Zimena yonda, andere lo rebeke vedi soda. Adi fore assi, vevele hi, endere vela. Oh oui, j'ai reçu la joie, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai tout reçu en Jésus. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose ce matin? Ils sont libres si quelqu'un veut dire quelque chose. Ça va? Tout va bien? Bon, ben voilà. On va remercier Dieu pour ce moment et puis on va faire la collecte et puis on va rentrer. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc au château dans quelques instants. Amen. On chante.